Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.
Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme, consacrée aujourd'hui à De la misère en milieu étudiant, une célèbre brochure situationniste qui, selon nous, et c'est pour ça qu'on voulait y consacrer une émission entière, contient toujours pas mal de choses actuelles, que ce soit dans la critique des études et de l'université, ce sera notre première partie, que ce soit sur la critique des pseudo-mouvements contestataires, ce sera notre deuxième partie, et dans la critique du capitalisme et de la société existante, et des courants théoriques, disons, qui prétendent, soi-disant, critiquer cette société, et ça, ce sera notre troisième partie. Et donc, pour discuter, présenter cette brochure, ces thèses, et enfin, discuter, éventuellement voir des limites, et proposer des actualisations de cette brochure, nous sommes avec Sylvain de Zone Subversive, un habitué des émissions de Sortir du Capitalisme. Donc, bonjour Sylvain.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais, d'abord, pour resituer le contexte, qui est le groupe qui a commis ce texte fort intéressant ? Dans quel contexte est-ce qu'on est globalement en 1967, en novembre 1967, même si évidemment on le précisera ce contexte au fur et à mesure de l'émission.
Alors, en 1967, justement, la brochure De la misère en milieu étudiant, moi je trouve intéressante parce que justement elle est dans un contexte où l'international situationniste est à un point, on va dire, de finesse théorique, d'élaboration théorique, qui est particulièrement intéressant, puisque l'international situationniste, pour résumer rapidement, ça a été créé au départ par des artistes, y compris des peintres, etc., avec une vocation un peu de reprendre l'héritage des dadaïstes, des surréalistes et des lettristes, dans une démarche d'avant-garde artistique. Et puis, les situationnistes, sous l'influence surtout de Guy Debord et un peu de Raoul Van Eyen, se sont rapprochés de courants plus politiques, de courants du mouvement ouvrier révolutionnaire, et notamment du communisme de conseil. Et là, cette brochure essaie de synthétiser un peu les idées situationnistes de l'époque, qui sont particulièrement intéressantes, puisqu'elle a croisé de différents courants, alors notamment de marxisme un peu hétérodoxe, de critique de l'aliénation, inspiré de Lukács, ce genre de choses, de critique un peu de l'emprise du capitalisme sur nos vies quotidiennes, et puis en même temps une tradition du communisme de conseil qui valorise les soviets, l'auto-organisation du prolétariat. Et donc c'est un peu ce croisement de ces différents courants qui va donner à l'international situationniste une critique à la fois originale et très pertinente de la société, des mouvements qui la contestent, et aussi des perspectives révolutionnaires qu'ils envisagent et sur lesquels ils essaient de réfléchir. Ce texte, cette brochure, contexte dans lequel elle a été diffusée, c'est considéré comme un texte d'intervention politique. C'est pas considéré comme un texte théorique, forcément, puisque c'est une brochure qui a été diffusée dans les universités, même au-delà. Alors, pour l'anecdote, c'était des étudiants qui étaient syndiqués à l'UNEF à Strasbourg, qui ont pris contact avec les situationnistes, et ils ont dit, on trouve que vous êtes marrant, que vous êtes rigolo, vos idées sont intéressantes, et on a envie de nous amuser un peu, donc est-ce que vous pourriez pas faire une brochure. Et donc, ils ont essayé d'écrire une brochure collectivement. Alors, normalement, c'est Mustapha Kayati qui est considéré comme un auteur, mais c'est plutôt le fruit d'une réflexion collective, que ce soit celle de l'international situationniste. Et donc, ça a été financé par l'UNEF Strasbourg, hein, parce que les situationnistes sont un peu l'inverse des trotskistes et des gauchistes. C'est-à-dire que les trotskistes et les gauchistes essaient de prendre le contrôle d'un appareil syndical pour ne rien faire. Les situationnistes n'ont cherché rien du tout. Il y a des gens qui sont venus les voir, ils ont dit bon ben dilapider l'argent pour diffuser nos idées. Et donc il y a eu cette brochure qui est plus largement plus long qu'un tract, donc il y a quand même demande une certaine exigence. Et puis diffuser aussi le retour de la colonne du routier, qui est une forme de bande dessinée détournée qui reprend aussi pas mal des idées situationnistes et notamment leur critique des groupuscules gauchistes. Et donc voilà, c'est aussi l'aspect intéressant de ce texte, c'est sa recherche d'avoir une intervention politique, d'essayer de ils sont attachés aussi à pas uniquement à penser la société, mais aussi à la transformer.
Oui, d'ailleurs ça a été une brochure qui a beaucoup diffusé les idées situationnistes, puisqu'elle a été tirée à plusieurs milliers d'exemplaires, qu'elle a été diffusée largement grâce aux moyens de l'UNEF de Strasbourg. Quel dommage que l'UNEF n'ait pas la bonne idée de refaire une publication pour l'anniversaire de ce texte qui trancherait un petit peu avec la monotonie de leurs communiqués syndicaux. Bon alors, du coup, pour revenir sur la première partie de ce texte, qui s'appelle « Rendre la honte plus honteuse en la livrant à la publicité », et qui commence par cette phrase forte, « Nous pouvons affirmer, sans grand risque de nous tromper, que l'étudiant en France est, après le policier et le prêtre, l'être le plus universellement méprisé ». Voilà, donc ça commence fort. Du coup, on voulait présenter un petit peu la critique des étudiants, qui est pas tellement une critique ad hominem, mais qui est plutôt une critique, finalement, presque une analyse de classe, quoi. C'est quoi les étudiants dans la société capitaliste avancée? En tout cas, celle des années 60, on verra qu'il y a quand même quelques différences avec aujourd'hui. Quelle est la critique de l'université qui est faite et de ce qui va avec l'université, c'est-à-dire la culture, la politique de gauche, les organisations syndicales et les partis.
Oui, ben ensuite, effectivement, il y a cette critique, la critique un peu de l'émergence d'une nouvelle classe sociale qui est plutôt les cadres, les ingénieurs, etc., de la société capitaliste. Et puis une critique aussi de l'aliénation de la vie quotidienne. Alors sur l'aspect, effectivement, futur cadre, c'est un peu une critique forte que font les situationnistes, puisque les étudiants, bon, on est dans les années 60, donc l'université n'accueille pas autant de monde qu'aujourd'hui. Donc effectivement, ce sont des gens plutôt issus de la bourgeoisie qui vont à l'université, et comme il n'y a pas le chômage de masse comme aujourd'hui, qui sont destinés à avoir un emploi, et notamment un emploi de cadre, de direction dans les entreprises. Voilà, voilà, les situationnistes vont critiquer à travers l'étudiant cette classe sociale, qui est appelée aussi les couches nouvelles, qui vont être valorisées par d'autres groupes exclus comme le Parti Socialiste Unifié de Michel Rocard. Et tout un tas de sociologues dont parle un peu la brochure autour de la revue Argument avec Edgar Morin, avec Serge Mallet, etc., qui vont valoriser ces classes moyennes comme un nouveau sujet politique destiné à remplacer le vieux prolétariat des vieux ouvriers. Les situationnistes vont être au contraire dans une espèce d'attitude de mépris pour cette nouvelle classe sociale en disant qu'elle ne mène à rien, qu'elle est totalement dans la soumission, qu'elle n'est pas du tout dans la révolte, qu'elle est dans la passivité, la consommation. Et du coup, ça rejoint un peu aussi leur critique de la vie quotidienne. C'est à un moment donné, ils disent que effectivement les étudiants ont de très faibles revenus et en même temps ils sont soumis à la fois à l'État et à leur famille et donc ils subissent une espèce de contrôle et de conformisme qui est lié un peu à ce statut d'entre-deux, ni totalement enfant ni vraiment dans le monde du travail, qui fait que ils subissent tout un tas de normes, de contrôle social, qui les réduit à un mode de vie finalement assez aliéné, assez peu épanouissant malgré l'image qu'on se fait de l'étudiant à cette époque-là, qui profite de la vie, etc.
Oui, l'image d'un étudiant, voilà, bohème.
Voilà, effectivement, il critique cet aspect-là de l'étudiant bohème, au goût assez conformiste. Alors, les situationnistes, dans leur revue, critiquent beaucoup la nouvelle vague et le nouveau roman, qui effectivement correspondent bien à ces classes moyennes, à cette petite bourgeoisie intellectuelle qui se développe à ce moment-là, et avec un cinéma et une littérature assez creuse, qui parlent de problèmes pour classe moyenne, de vie moyenne, etc. Il y a tout un tas de films, de Godard, de romans, où il ne se passe strictement rien, c'est des dialogues soporifiques. Et effectivement, on sent chez les situationnistes une volonté de critiquer cette culture-là qui est très à la mode dans certains milieux, notamment dans les médias qui incarnent cette classe sociale-là, voilà, et de démolir un peu tout ça. les situationnistes, d'ailleurs, dès le début de leur revue, dès le début des années 60, ont démoli le nouveau roman, la nouvelle vague. Ils insultent Godard. En mai 68, ils avaient dit Godard, le plus con des Suisses pro-chinois, pour un peu à la fois dénigrer son cinéma qui est très esthétisant et ses engagements politiques qui sont très, très gauchistes et très peu réfléchis.
Voilà. Oui, pour la Chine de Mao, pour le maoïsme et la révolution culturelle. Quoi.
Voilà, qui défendait la barbarie maoïste.
Ce que tu dis, c'est intéressant parce que, en fait, la critique situationniste, là où elle est très novatrice dès ce texte-là, c'est qu'elle refuse de prendre parti dans l'opposition entre la vieille culture bourgeoise, un peu aristocratique, élitiste. Donc, il y a un mépris dans ce texte pour les vieux professeurs qui continuent à s'attacher à la culture classique. Parce que dans les années 60, on est encore dans un entre-deux où l'université et en transformation, c'est-à-dire qu'elle n'est plus uniquement réservée à, disons, la bourgeoisie au sens classique, les fils de rentiers, les fils de propriétaires, les fils de patrons. Elle s'ouvre aux classes moyennes, pas au prolétariat, mais ou très très marginalement, mais aux classes moyennes. Et du coup, elle a une fonction qui devient désormais beaucoup plus technique, c'est-à-dire que avant, globalement, les fils de patrons, de toute façon, ils allaient succéder à leur père. C'est les études, c'était pour leur donner un peu de culture, pour enrober ça entre guillemets d'une espèce de supériorité morale. Ça fait partie de la justification de la bourgeoisie, du pouvoir de la bourgeoisie, c'est d'enrober ça à travers une supériorité intellectuelle et culturelle, un peu comme les aristocrates maintenaient une espèce de distinction vis-à-vis de la plèbe par tout un tas de choses, le vêtement, la culture, tout ça. Et donc cette université en transformation, elle est déjà à l'époque, on parle de crise de l'université, c'est ça qui est un peu rigolo parce qu'on en parle encore aujourd'hui. Et là, ce qui est appelé crise de l'université à l'époque, c'est le fait que l'université est pas encore vraiment, est pas adaptée à recevoir tous ces enfants des classes moyennes qui arrivent pour devenir des futurs cadres, parce qu'elle est encore un peu prisonnière de son schéma de on éduque juste la bourgeoisie au sens de Marx, quoi, et pas ce qu'on va appeler la classe d'encadrement, quoi. Et les situationnistes, eux, et c'est là où ils sont peut-être la théorie critique la plus avancée de leur époque, ils refusent de prendre parti dans cette opposition entre, disons, la vieille culture bourgeoise de droite et la nouvelle culture bourgeoise, entre guillemets, c'est-à-dire de classe moyenne, de gauche.
Oui, bah les situationnistes, ils se situent dans la filiation des avant-gardes artistiques. Il faut pas oublier qu'ils ont eux-mêmes, en tout cas dans une première partie de l'international situationniste, réalisé des films, notamment les films de Guy Debord, qui ont influencé un peu l'esthétique de Godard, qui sont surtout de l'expérimentation esthétique, puis ensuite qui ont essayé de valoriser des détournements, alors soit de films, soit de BD, etc. Où là, c'est un discours beaucoup plus accessible, où il y a une recherche esthétique, mais surtout une volonté de passer un contenu politique à travers leur production artistique. Et donc, les situationnistes ont un peu cette attitude, dans le sens où eux ne sont pas fascinés par la culture, qu'elle soit celle de la vieille bourgeoisie ou celle de la nouvelle culture moderne, puisque eux-mêmes se vivent en partie comme un mouvement artistique. Et puis l'aspect aussi du texte, hein, de la première phrase du texte que tu as lu, c'est on peut y voir un ton un peu méprisant, mais avec des ambiguïtés, c'est-à-dire que effectivement c'est pas un mépris pour l'ensemble de la population, dans le sens où, alors ça c'est l'évolution un peu du vieux Guy Debord qui aura cette évolution là à se considérer comme le seul un peu être libre dans un monde où tout le monde est aliéné. Là c'est pas vraiment ça qui est perçu, c'est plutôt une manière de mépriser une culture qui à l'époque est très à la mode. C'est un peu dans la brochure, il y a tout un tas de name dropping de gens qui sont aujourd'hui totalement oubliés, c'est sans doute ce qui rend le côté obsolète de la brochure, mais qui à l'époque ont une espèce d'aura intellectuelle, culturelle, dans pas mal de milieux de gauche et d'extrême gauche. Et leur volonté, c'est un peu de considérer ces mouvements très en vue comme méprisables pour essayer d'affirmer quelque chose de réellement nouveau et de réellement à rupture avec le monde marchand.
Oui, c'est-à-dire que le côté, parce qu'effectivement, c'est vrai, quand on lit cette brochure, on peut se dire que en fait c'est vraiment c'est un mépris des étudiants, alors qu'en réalité c'est moins un mépris disons des gens qui peuvent faire des études qu'un mépris d'une catégorie sociale qui se coule dans un moule qui les destine destinent à être des futurs cadres qui vont voir le dernier Godard. Voilà, il y a une phrase là-dessus qui résume bien cette chose. Et finalement, là où les situationnistes sont relativement violents, c'est peut-être pour provoquer une espèce d'électrochoc chez les étudiants qui viendraient à lire cette brochure et leur dire, voilà, si vous vous reconnaissez dans ce personnage, fuyez-le. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie du texte, les étudiants sont déjà moins méprisés. Et il y a l'idée, même vers la fin de la première partie, qu'il y a quand même une minorité d'étudiants qui a bien compris, entre guillemets, le système universitaire, qui profite des bourses, qui profite d'un peu de liberté de recherche, et qui en réalité méprise l'université, les études. Et ça, c'est un passage assez intéressant. Donc ils disent « Certes, il existe tout de même parmi les étudiants des gens d'un niveau intellectuel suffisant. Cela domine sans fatigue les misérables contrôles de capacité prévus pour les médiocres. » Il y a quand même un petit côté aristocratique chez les situés. « Et ils les dominent justement parce qu'ils ont compris le système, parce qu'ils le méprisent et se savent ses ennemis. Ils prennent dans le système des études ce qu'il a de meilleur, les bourses, profitant des failles du contrôle, que sa logique propre oblige actuellement ici à garder un petit secteur purement intellectuel, la recherche. Ils vont tranquillement porter le trouble au plus haut niveau. » Leur mépris ouvert à l'égard du système va de pair avec la lucidité qui leur permet justement d'être plus forts que les valets du système, et tout d'abord intellectuellement. Les gens dont nous parlons figurent en fait déjà parmi les théoriciens du mouvement révolutionnaire qui vient, et se flattent d'être aussi connus que lui quand on va commencer à en parler. Ils ne cachent à personne que ce qu'ils prennent si aisément au système des études est utilisé pour sa destruction. Alors, bon, c'est un peu paradoxal comme texte, parce qu'il y a un côté un peu aristocratique, du genre, il y a les étudiants vraiment, il y a presque les Blooms, et d'un autre côté, il y a les aristocrates qui ont compris et qui sont déjà des sujets révolutionnaires et tout ça, alors que bon, peut-être qu'il faudrait être un petit peu moins dichotomique et voir que il y a peut-être des situations un peu intermédiaires entre cette espèce d'avant-garde révolutionnaire et ces étudiants un peu dont finalement la brochure se raille. Mais en tout cas, il y a l'idée que la condition d'étudiant, en tout cas, si structurellement elle est vouée à produire des petits cadres pour le capitalisme, et là c'est là où il y a toute l'analyse de classe qui est très intéressante, c'est-à-dire qui est encore valable aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré tout, une majorité des étudiants des classes moyennes vont tendanciellement occuper des postes de cadre dans la fonction publique ou dans les entreprises, vont structurellement avoir une culture particulière, ils vont aller au théâtre, regarder des films particuliers. Ça, c'est encore valable, très valable aujourd'hui. Et en même temps, dans ce texte, il y a l'idée que, malgré tout, il est possible d'essayer de déserter cette condition, même si, évidemment, ça reste le cas d'une minorité, quoi.
Alors oui, dans l'extrait que tu as lu, il y a effectivement un problème, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, d'une part, les étudiants qui réussissent leurs études ne sont malheureusement pas des théoriciens révolutionnaires, ça se saurait. Et d'autre part, c'est pas sûr que les étudiants qui aient le plus d'esprit critique soient ceux qui réussissent le mieux leurs études. Je pense que là, il y a un rapport de fascination quand même, mine de rien, pour le milieu intellectuel et pour l'agilité intellectuelle qui fait que les situationnistes se trompent un peu. Et puis, il y a une volonté, malgré tout, chez les situationnistes, d'avoir une influence dans ce milieu étudiant, où ils ont un rapport très ambigu au milieu étudiant. C'est-à-dire, d'un côté, le sujet révolutionnaire, ce sont clairement les prolétaires, et de l'autre, ils accordent quand même une importance aux étudiants. Les gens qui lisent l'international situationniste sont beaucoup des étudiants, mine de rien, et ils ont beaucoup plus d'audience dans les milieux universitaires et chez les étudiants que chez la plupart des ouvriers. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce rapport un peu ambigu par rapport au monde étudiant chez les situationnistes. Alors, effectivement, c'est possible que dans l'international situationniste de l'époque ou leurs sympathisants, il y ait pas mal de gens qui soient dans cette situation, c'est-à-dire d'étudiants qui sont là pour les bourses, qui arrivent à passer leurs examens et qui sont quand même dans un rejet total des études parce qu'ils n'ont pas envie de devenir des cadres. Et c'est aussi une partie des raisons de la contestation étudiante dans les années 60 et en France en mai 68, c'est il y a ce refus de s'intégrer justement dans ce conformisme non seulement du mode de vie étudiant, mais surtout de la vie future, du cadre moyen avec sa maison pavillonnaire en banlieue. Mais voilà, en gros, le mode de vie, l'American way of life, assez conformiste et finalement assez routinier, ennuyeux et assez peu exaltant. Donc il y a une partie des étudiants, plutôt que de vouloir être cadre moyen, ils préfèrent être révolutionnaires parce que c'est quand même un peu plus enthousiasmant.
Oui, il y a une espèce de, donc chez ces étudiants, un refus de leur devenir, place dans la société de classe qui leur a assigné, un petit peu comme dans les années 70, pas mal de prolétaires italiens vont refuser justement d'être des prolétaires. Et c'est une dynamique qu'on retrouve beaucoup dans les années 60-70, qu'on retrouve peut-être moins aujourd'hui parce que il y a d'autres facteurs qui l'expliquent, mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, comme on est même plus sûr d'avoir une place, c'est plus difficile de la refuser. Et aussi, ce qui différencie beaucoup la situation par rapport à aujourd'hui, c'est que l'université dans les années 60 est en train d'être très progressivement restructurée pour être adaptée aux nouveaux besoins du capitalisme des années 60, qui est en pleine expansion, de plus en plus technologique, et donc qui a besoin de cadres, notamment de cadres techniques, mais aussi de cadres pour former la main-d'œuvre. Et donc, il y a un mouvement du capitalisme qui fait qu'on n'a plus besoin seulement d'une énorme masse de prolétaires, mais de plus en plus aussi de ces classes moyennes salariées dont on a parlé dans une émission avec Alain. Et on a besoin de cette nouvelle classe dans un nombre toujours plus fort. Ce qui fait qu'il y a même eu des explications, par exemple, je pense que c'était celle de Pierre Bourdieu, comme quoi mai 68 serait lié au fait qu'il y avait tellement de gens dans les universités, qui étaient des structures qui n'étaient pas du tout adaptées à recevoir autant de monde, que du coup, ça a créé des formes de frustration, de... Enfin, moi, je pense c'est une explication un peu trop facile de mai 68, mais bref. Et ce qui est intéressant dans la critique des situationnistes, c'est qu'ils disent que d'un côté, donc, on a les réactionnaires qui défendent voilà la culture bourgeoise de droite, qui disent non, il faut revenir à l'université d'avant. C'est marrant parce que c'est le discours que depuis qu'on a entendu 100 fois de l'université, une espèce de sacralisation de l'université qui devrait quand même faire réfléchir un peu dans les milieux critiques, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que les situationnistes critiquent d'un autre côté l'UNEF en disant que finalement c'est des réformistes de gauche de l'université qui veulent adapter l'université aux besoins sociaux et, enfin, disons, mettre l'université en phase avec son époque, c'est-à-dire, en gros, parce que de toute façon on est dans une société capitaliste à cette époque, c'est-à-dire adapter l'université aux besoins du capitalisme. Comme, et là je cite cette phrase qui est vraiment assez géniale, comme usine d'élevage hâtif de petits cadres et de cadres moyens. Et donc du coup les situationnistes critiquent l'UNEF en disant bah finalement eux, ils veulent accélérer le passage de l'université à une usine d'élevage hâtif de petits cadres et de cadres moyens. Et finalement ils font un peu de l'UNEF, de tous ces mouvements de réforme de l'université depuis, il y en a eu je ne sais pas combien, une espèce d'avant-garde de l'université capitaliste. C'est-à-dire que finalement tous ces réformistes ne font en fait que préparer la nouvelle université capitaliste, quoi.
Ouais, et puis il y a effectivement pas mal de polémiques avec ces courants sociologiques, voilà, dont j'avais parlé un peu avant, autour du PSU, une partie des théories de Cornelius Castoriadis, qui vont parler du capitalisme managérial, et avec un sentiment un peu contrarié, d'un côté un peu de constater les évolutions du capitalisme, et en partie de s'en réjouir, d'être un peu fasciné par cette montée des cadres, des ingénieurs, qui vont effectivement former le gros des troupes du Parti Socialiste Unifié, qui vont aussi fasciner Cornelius Castoriadis à une époque, hein, après sa sortie de Socialisme ou Barbarie. Et c'est ce que appeler les couches nouvelles. Et c'est vrai que c'est important de critiquer ça, de critiquer ces théories un peu qu'ils disent modernistes, à la fois de l'université et de la société, qui en gros aussi vont, et d'ailleurs c'est des discours qu'on entend toujours, hein, c'est qu'aujourd'hui la classe ouvrière a disparu, il n'y a plus de prolétariat, et que finalement aujourd'hui c'est l'intelligence connectée, c'est à travers les réseaux internet, les informaticiens, etc. C'est le discours de Tony Negri et de sa mouvance aujourd'hui qui va essayer de valoriser les aspects les plus modernes du capitalisme. Et c'est vrai que les situationnistes vont critiquer un peu ces dérives d'une espèce de... Je ne sais même pas si c'est de l'anti-capitalisme, mais c'est vrai que c'est de dire que le capitalisme ne va pas assez loin dans son mouvement de progrès, voilà, et qu'il faut essayer d'aller encore plus vite que le capitalisme dans... une espèce de réforme de la société.
Oui, le manifeste accélérationniste aujourd'hui, par exemple, ça fait quand même furieusement penser, mais c'est vrai qu'effectivement, le meilleur exemple, c'est toutes les théories du post-opéraïsme qui théorisent effectivement, qui se réjouissent finalement qu'on est rentré dans un nouveau capitalisme, où finalement la valeur est produite partout, tout le monde est un créatif culturel et tout ça. Et c'est là où on voit d'ailleurs que toutes ces pensées sont quand même liées à une certaine classe sociale, puisque tout le monde ne peut pas être créatif culturel, ou tout le monde n'est de facto pas un créatif culturel. Et ça, c'est assez intéressant. Et du coup, dans cette critique à la fois de la nouvelle université et de l'ancienne université, les situationnistes montrent ce qui est une critique radicale. Et enfin, je trouve que dans cette brochure, les situationnistes montrent bien ce qui est une critique qui refuse de se laisser enfermer dans la fausse alternative du vieux et du nouveau capitalisme. Contrairement aujourd'hui, on critique régulièrement effectivement tous les penseurs qui ont une nostalgie pour les 30 glorieuses. Je pense quand même que le courant situationniste, un de ses grands intérêts, c'est que c'est un courant qui se développe pendant les 30 glorieuses et qui les étrille. Alors que bon, il faudrait peut-être les relire aujourd'hui avec toute cette nostalgie à gauche des 30 glorieuses, et du coup ça montre un petit peu ce qu'est une critique ce qu'est une critique radicale, et on le verra dans la troisième partie et dans la deuxième partie de l'émission, le fait qu'ils refusent aussi de se positionner dans le débat très important à l'époque, qui aujourd'hui s'est beaucoup déplacé, entre l'URSS et ses pays frères entre guillemets, et d'autre part le bloc capitaliste libéral, quoi. Ça c'est un refus qu'il faudrait méditer. Après, finalement, quelle est la critique qu'ils font des étudiants, disons au-delà du fait que voilà, ils sont de classe moyenne et tout ça. Il y a un certain nombre de points peut-être que je voudrais lister rapidement. Donc c'est tout d'abord l'étudiant qui est presque un espèce d'idéal type, hein, est quand même une figure qu'on retrouvait beaucoup à cette époque et que malheureusement on retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Peut-être moins dans l'université, dans les universités un peu précaires ou genre Paris 8 ou Paul Valéry, où là il y a quand même plus de prolétaires que genre des classes moyennes. Mais on va dire, si par exemple on va à Paris 4 la Sorbonne, c'est des étudiants qui croient fermement aux valeurs et aux idées du capitalisme. D'ailleurs, c'est un petit peu une des fonctions principales aujourd'hui des managers et des cadres de manière générale, c'est de pouvoir croire en un système, alors que bon, tendanciellement les employés, les salariés de base, ils n'ont pas forcément beaucoup d'avantages matériels à y croire, ni la formation idéologique pour le faire. Après, il y a également une critique du fait que les étudiants ont trop souvent une attitude de révérence vis-à-vis des professeurs, qu'ils abdiquent leur esprit critique et qu'ils sont dans une espèce de communion avec leurs professeurs, dans l'idée que eux détiennent le savoir, et ce qui donne tout son côté un peu sectaire à l'université aujourd'hui, pas toute l'université, mais quand même une bonne partie de l'université, c'est-à-dire une espèce d'entre-soi où on est content, on partage des références, un langage, un code qui est pas compréhensible pour une majorité de la population, même celle qui s'en donnerait la peine, disons, et qui produit pas grand-chose de très subversif ou de très novateur et de très critique et de très radical. Peut-être que depuis quelques années, il y a peut-être un peu plus de critique chez les étudiants, mais globalement, ça reste faible.
Alors ouais, moi dans ma jeunesse où j'étais étudiant, ça remonte à longtemps, quand il y avait des mouvements de contestation étudiants, des blocages dans les universités, etc., c'est vrai que la critique de l'université était finalement assez peu présente. Alors on pouvait critiquer le capitalisme, on pouvait critiquer l'État, mais dire « les profs ne servent à rien, ce qu'ils nous enseignent, c'est totalement débile, c'est du bourrage de crâne, ou voilà, ça n'a aucune utilité, c'est le degré zéro de la critique », c'était un discours difficilement audible malgré tout. Et c'est vrai que même chez les étudiants d'extrême-gauche, comme le dit bien la brochure, et là c'est toujours le cas, il y a quand même l'idée que, ah oui, dans la sociologie de Bourdieu, il y a des choses intéressantes, que dans, je sais pas, tel ou tel auteur, ou même des universitaires encore en vie, ah oui, mais quand même, l'université diffuse des éléments d'esprit critique. Les situationnistes, dans cette brochure, démontrent bien que tout cela n'est qu'une mascarade, qu'en réalité, les universitaires... Alors, ils diffusent ce que les appellent un savoir séparé, c'est-à-dire c'est des cours sur des points très précis, très particuliers, sans aucune vision globale de la société, sans aucune critique globale, même chez les sociologues et les historiens, ça va être une période particulière, etc. Et que finalement, l'université, évidemment que c'est plus une fabrique de conformisme, de comportement moutonnier, de déférence à l'égard des profs, plutôt qu'un temple du savoir critique et de la contestation, de la subversion permanente.
Effectivement, dans des années, je pense surtout aux années 90-2000, où le niveau de contestation était très faible, l'université a pu apparaître comme un peu le dernier endroit où on pouvait faire de la critique, ce qui fait que tous les universitaires se sont finalement érigés dans une espèce de classe révolutionnaire qui défend les acquis sociaux contre le néolibéralisme, il y a eu quand même une vague dans l'université de critique du néolibéralisme qui est très fort, comme si la critique du néolibéralisme était éminemment subversif, alors que Pierre Bourdieu, professeur au Collège de France, pouvait la sortir. Et c'est vrai que, heureusement aujourd'hui, ça commence quand même à être remis en cause, cette idée que voilà, c'est les universitaires critiques du néolibéralisme qui sont un peu l'espèce d'avant-garde éclairée qu'il faut écouter en priorité. Alors que eux-mêmes, parfois effectivement sont voilà dans l'émission, parfois on fait écho à des choses qui ont été développées par des universitaires, mais en général, à part quelques rares universitaires qui en général viennent d'un milieu contestataire avant d'être devenus universitaires et qui ont donc peut-être une approche plus radicale et globale des questions, la plupart des universitaires aujourd'hui, voilà, ils ont les seules théories, leur théorie critique globale, ils l'ont appris en lisant Foucault ou Bourdieu. Et donc évidemment, bah, c'est assez faible en termes de critique radicale de la société capitaliste. On espère que l'université n'existera plus dans 20 ans. peut-être que c'est un petit peu moins vrai et que les étudiants reviennent dans des mouvements sociaux plus radicaux et peuvent développer des théories un peu plus radical, mais enfin en tout cas pour ce qui est de voilà des dernières générations d'étudiants, enfin des dernières générations d'universitaires plutôt, globalement voilà, ils ont été nourris à Foucault, à Bourdieu, à une critique mal comprise du marxisme, c'est-à-dire ils ont rejeté le marxisme comme étant totalitaire et tout ça, du coup ils ont balancé Marx, ils ont balancé le communisme libertaire avec, tout ça a donné la pauvreté intellectuelle qu'il y a aujourd'hui chez les universitaires, quoi.
Alors, pour l'anecdote, il y a eu même un mouvement des universitaires, ça remonte à 2009, et leur mouvement s'appelait Sauvons l'université, qui est un mouvement totalement corporatiste. C'est-à-dire que les médias qui sont dénoncent sans arrêt le corporatisme des cheminots, des ouvriers, des gens qui ont des statuts ou autres, encensaient ce mouvement Sauvons l'université, où c'est quand même des universitaires qui disaient quand même on veut continuer à être bien payé, on veut quand même avoir une vie assez cool, assez peinard, pas trop donner de cours, faire nos recherches dans nos labos assez tranquilles, et qu'on vienne pas nous faire chier à nous dire que c'est de la merde en nous évaluant, etc. Quand même, bon, l'université, ça doit être quand même un temple sacré qui ne doit servir à rien, et on doit continuer à vivre comme ça. Et donc, ce mouvement s'appelait Sauvons l'université, qui résume à peu près l'état d'esprit dans lequel sont les universitaires. Et je pense que ce serait intéressant, dans une perspective situationniste, de créer un mouvement qui s'appelle Détruisons l'université, qui dénonce un peu toute cette mascarade, alors que ce soit la casse des universitaires, que ce soit les étudiants qui... Alors, moi, j'avais vu même des conférences d'universitaires critiques, de séminaires marxistes, de sociologues bourdieusiens, et vous avez les étudiants qui écoutent cette pensée censément être critique avec énormément de dévotion, en disant « Oh, que c'est formidable ce regard critique sur la société », mais eux ne sont absolument pas critiques par rapport à ce savoir universitaire et par rapport à ce qui leur est débité avec, évidemment, la tribune, le savoir, les citations, les références intellectuelles, les notes de bas de page, etc. Il n'y a aucun regard critique par rapport à tout ça.
Et c'est intéressant parce que ça fait là ce que tu viens de dire, ça fait tout à fait écho à une partie de la brochure où il est dit voilà que les étudiants sont un peu des consommateurs privilégiés des marchandises politiques, c'est-à-dire des dernières marchandises politiques à la mode. Donc à l'époque c'était le maoïsme, le castrisme, la nouvelle gauche, le PSU et tout ça. Et aujourd'hui, qui serait, bah, je sais pas, les insoumis, pourquoi pas, la France insoumise, Podemos en Espagne, voilà, ce genre de mouvements, qui sont vraiment des mouvements de classe moyenne, réformistes de gauche, qui se contentent d'agiter un petit chiffon en disant « Oulala, c'est pas bien ». Les 1%, ils sont cupides, et ils nous spolient, et nous, on est les 99%. Alors d'ailleurs, c'est rigolo, parce que même le monde diplomatique se met à critiquer le slogan des 99%, puisque dans un éditorial, Serge Halimi disait que 99%, c'était trop. Voilà. Et qu'il fallait aussi critiquer les journalistes, les universitaires, les avocats. Donc comme quoi, hein, le monde diplomatique, on a beaucoup critiqué le monde diplomatique dans cette émission, mais comme quoi, il y a eu un éclair de lucidité dans le monde diplomatique. Bon, je pense pas que ça changera fondamentalement la ligne éditoriale du journal.
Je te laisse entière responsabilité de ces propos.
Enfin voilà. Et du coup, Ce que disait aussi la brochure, c'est que du coup, les étudiants, voilà, sont aussi des consommateurs des marchandises intellectuelles dernier cri. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être, je sais pas, ça va être les livres de La Fabrique, par exemple, qui sont les marchandises intellectuelles dernier cri. C'était à une époque, et encore récemment, Foucault. Les étudiants, finalement, en arrivent, et c'est ce que disent les situationnistes, là je dis pas tous les étudiants, mais disons les étudiants de manière générale, en arrivent finalement à consommer de la critique nouvelle. C'est-à-dire, à une époque, dans les années 60, ils consommaient du marxisme, parce que le marxisme, ça revenait sur le devant de la scène, c'était à la mode, ils disaient Sartre, Althusser, tout ça. Dans les années 70, qui était à la mode, ça commençait à être Foucault, Deleuze, Guattari, dans les années 80 aussi. Après, ils se sont mis à lire Negri dans les années 90, dans les années 2000, enfin, et Bourdieu dans les années 2000, enfin voilà, et jusqu'à aujourd'hui où, voilà, ce qui est, c'est plutôt La Fabrique, Période, voilà, ce genre de marchandises intellectuelles dernier cri, qui pourtant, ont, sur plein d'aspects, sont en deçà d'acquis fondamentaux. Par exemple, dans les années 50-60, en lisant les situationnistes, on voit bien que normalement, la critique du marxisme, léniniste, tout ça, ça devrait être acté, et on devrait le jeter aux poubelles de l'histoire. On en est en 2017, il est toujours pas aux poubelles de l'histoire, bon, c'est bien dommage. Et on voit que, et aujourd'hui on voit bien, c'est dans la résurgence de formes de marxisme-léninisme, à travers, voilà, Période ou certaines publications de La Fabrique, que, voilà, c'est pas encore acté, et je pense que, malgré tout, les étudiants, dans leur recherche du dernier cri, des marchandises intellectuelles ou subversives, finalement, participe de ces phénomènes un peu médiatiques, de la nouveauté, et du coup, on, malheureusement, on choisit pas toujours la critique la plus pertinente de la société actuelle, quoi.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les colloques pensées d'émancipation.
Voilà, c'est ça.
Qui sont un peu la caricature de tout ça.
C'est ça, voilà. Et ce qui fait que les situationnistes disent que finalement, les étudiants sont les derniers participants zélés au spectacle politique de gauche. Donc voilà, typiquement, c'est eux qui vont aller à penser l'émancipation, ou à tel colloque sur, je sais pas moi, la critique du néolibéralisme. Et finalement, ils disent que les étudiants sont les meilleures terres de mission des curés politiques. Donc je trouve que l'expression est vraiment, vraiment bien choisie, quoi. Et dernière chose, les étudiants, dans leur dans leur volonté d'être toujours au dernier cri de la critique politique, évidemment, dans les années 60, ils critiquaient De Gaulle comme étant une personnalité archaïque, ce qui fait que la figure De Gaulle a de facto eu une très grande place dans la contestation des 68, et disons dans sa partie la plus mainstream, entre guillemets. Mais comme disent les situationnistes, ils critiquent De Gaulle comme archaïque, mais au nom d'erreurs passées. C'est-à-dire le PCF, la vieille gauche réformiste, c'est-à-dire la contre-révolution depuis le début des années 20 et l'échec de l'assaut prolétarien de la fin des années 1910, quoi.
Oui, ben effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, le marxisme-léninisme n'était pas encore considéré comme archaïque. Ce serait bien de le considérer enfin comme archaïque, effectivement, comme le gaullisme, comme le macronisme, etc. Ouais, c'est vrai que tout ça est à jeter.
Voilà, et ben je pense qu'on va finir cette première partie sur ces bonnes paroles, et on va passer une pause musicale.
Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie, travail, famille, patrie, ne sortez pas de là. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues, et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste.
Bureaucrate ! J'en ai marre ! Je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie.
Tu peux retoucher un mot à ton syndicat, hein ? Ou bien lire le Nouvel Observateur, hein ?
Tu me prends pas un peu pour un con ?
Tant que ça peut durer. À propos, j'y pense. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On vous a déjà eu sans faire de prisonnier en Catalogne en 37. Et puis dans les rues de Budapest en 58. À la prochaine fois.
Bureaucrate, on n'est pas des militants. On ne se laissera plus jamais faire l'arme de la critique.
voilà comment la subjectivité radicale peut devenir une force pratique.
On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée.